franceinter.fr.
Il est précisément 13h. Le journal Yves Decamp, bonjour.
Bonjour. Une arrestation à Douvres au lendemain de l'attentat de Parsons Green qui a fait 29 blessés. La police britannique annonce avoir arrêté un suspect âgé de 18 ans dans la zone portuaire de Douvres. Le niveau d'alerte reste maximal outre-Manche. Lou Bureau attendu en France ce soir ou demain matin. Le journaliste emprisonné en Turquie depuis 51 jours a été libéré et pourrait prendre un avion à Ankara dans l'après-midi. Dans ce journal également, un nouveau bon du bio de plus en plus plébiscité par les consommateurs. Retour sur les couvre-feux de l'été dont certains ont été prolongés. Pour quelle utilité? C'est le droit de suite de ce samedi 13h avec en invité le président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, Michel Tubiana. Les prescriptions du service culture signées Alexandra Hakoun avec notamment les journées du patrimoine à Radio France. Des visites guidées cet après-midi encore toutes les 20 minutes. Et puis la météo, un ciel instable et menaçant sur les trois quarts du pays. Des températures toujours aussi fraîches, nous dira Jean-Michel Golinski. Une arrestation importante à Londres, c'est la formule utilisée ce matin par les enquêteurs au lendemain de l'attentat de Parsons Green. 29 personnes ont été légèrement blessées hier matin par une bombe déposée dans un train. Une bombe qui, fort heureusement, a fait long feu. Attentat revendiqué par le groupe État islamique. Hier soir, le patron de l'antiterrorisme disait avoir identifié des suspects. Et donc ce matin, un suspect de 18 ans a été arrêté à Douvres, Antoine Gignot.
Absolument, il est pour l'instant détenu à Douvres dans un commissariat local. Le jeune homme a été intercepté dans la zone portuaire, non loin des ferries qui embarquent les voyageurs vers la France. Une arrestation significative, explique le commissaire adjoint de la police, qui précise aussi que rien n'est terminé. L'enquête continue pour tenter de démanteler l'ensemble de la cellule. L'État islamique, sur son site de propagande, revendique d'ailleurs l'attaque à la bombe en parlant de l'action d'un détachement d'hommes, d'une équipe. Le Sun, le tabloïd le plus lu du Royaume-Uni, affirme même en gros caractères à la une que la police cherche un deuxième engin explosif. Pas de confirmation à la brigade antiterroriste pour l'instant, mais le niveau d'alerte reste au stade critique, le plus haut sur une échelle de 5, ce qui signifie pour les services de renseignement qu'une nouvelle attaque reste considérée comme imminente. Scotland Yard demande à la population de rester vigilante et publie sur Internet les consignes en cas d'attentat. Run, hide, tell, courez-vous, cachez-vous, téléphonez.
Antoine Gignot, à Londres, depuis le début de l'année, 4 attaques terroristes ont fait 36 morts au Royaume-Uni où des militaires patrouillent aujourd'hui sur les sites sensibles. Il sera de retour en France ce soir ou demain matin si tout va bien. Le journaliste Lou Bureau, emprisonné en Turquie depuis 51 jours, a donc été libéré. Arrêté le 26 juillet à la frontière irakienne en possession de photos le montrant avec des combattants kurdes. Il était accusé de complicité de terrorisme. La France, par la voix d'Emmanuel Macron, avait dit espérer un dénouement rapide. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, était en Turquie ces deux derniers jours, entre autres pour plaider la cause du jeune reporter, dont, selon Reporters sans frontières, les autorités turques ont fait un symbole, un otage d'État, pour intimider tous les journalistes, car c'est un métier de plus en plus difficile à pratiquer en Turquie, et pas seulement pour les Turcs à Nandlauer.
Le français Lou Bureau n'est que le dernier exemple. Avant lui, en moins d'un an, deux autres reporters français ont été arrêtés puis expulsés de Turquie. D'autres y sont encore détenus, notamment le germano-turc Deniz Yücel, correspondant du quotidien Die Welt, ou sa collègue et compatriote Meşale Etoğlu. Plusieurs raisons expliquent ces attaques inédites contre les médias étrangers. D'abord, une forme de paranoïa à la tête de l'État, décuplée depuis la tentative de putsch de l'été 2016, qui soupçonne les pays alliés, européens surtout, de vouloir nuire à la Turquie. Les reporters incriminés sont presque toujours accusés de liens avec le terrorisme et souvent d'espionnage. Ensuite, il y a la volonté de dissuader les journalistes de se rendre en Turquie pour couvrir, en particulier, sa gestion de la question kurde et son implication dans le conflit syrien. Enfin, les ressortissants étrangers incarcérés par Ankara sont devenus des monnaies d'échange. Un décret d'état d'urgence publié fin août autorise ainsi l'extradition de citoyens étrangers, ainsi que leur échange, non plus sur décision de justice, mais à la demande du ministère des Affaires étrangères, sur approbation du président Recep Tayyip Erdogan. Un angleur, Istanbul, France Inter.
Et le retour de Lou Bureau est donc acté, a commenté son avocat, a priori pour la soirée. À l'étranger également, ça devient une habitude, un scénario bien rodé, un nouveau tir de missile en Corée du Nord, au-dessus du Japon, 4 jours après les nouvelles sanctions adoptées par le Conseil de sécurité de l'ONU, une nouvelle condamnation du dit Conseil de sécurité, suivie de nouvelles menaces américaines et de nouveaux appels au dialogue de Pékin, un scénario archi connu dont ne se lasse pas le régime de Pyongyang, Dominique André.
Quelques heures après la condamnation du Conseil de sécurité, Kim Jong-un défie une nouvelle fois le monde. Il affirme se rapprocher de son but, détenir l'arme nucléaire. Le tir d'hier est un succès, dit-il, qui permet d'augmenter les capacités nucléaires militaires de la Corée du Nord, malgré le blocus. L'expert chinois Cheng Xiaore estime que Kim Jong-un poursuivra ses essais contre tous.
Kim Jong-un n'a peur de personne. Il n'a pas peur de la Chine, il n'a pas peur des États-Unis, il n'a pas peur de l'ensemble de la communauté internationale. On peut dire qu'il est le leader d'un pays qui n'a peur de personne. Mais avec cette attitude, il met son pays dans une situation très dangereuse.
Kim Jong-un justifie son programme par la nécessité de se protéger des États-Unis. Le cœur du problème, c'est l'opposition entre la Corée du Nord et les États-Unis, a réagi hier le ministère des Affaires étrangères chinois. Pékin, Dominique André, France Inter.
Le journal de 13h sur France Inter.
C'est un succès qui ne se dément pas. Le bio a le vent en poupe, plus que jamais. 14% de ventes en plus au premier semestre de cette année et même 18% dans les seules grandes surfaces. Produits alimentaires essentiellement favorisés par les crises sanitaires à répétition. En conséquence, de plus en plus d'agriculteurs sautent le pas et se recyclent en bio. Pour autant, le secteur en pleine évolution reste encore évidemment très minoritaire. Philippe Lefebvre.
Si l'on en croit les chiffres de l'agence bio, cette structure qui en charge la promotion de l'agriculture biologique, eh bien les ventes de produits bio auraient progressé de 18% sur les 6 premiers mois de cette année par rapport à la même période de 2016. Un chiffre qu'il faut toutefois relativiser car aussi spectaculaire qu'elle soit, les ventes de produits bio, au premier rang desquels les fruits et légumes et l'épicerie, ne représentent que 2 à 3% du chiffre d'affaires des grandes surfaces qui en proposent malgré tout toujours plus dans leur rayon, non pas par prise de conscience écologique, mais parce qu'il s'agit de bons produits d'appel, au même titre que l'essence, pour attirer les clients dans les magasins. Mais le chiffre le plus important de cette étude, c'est celui des conversions, des transformations de fermes classiques en fermes bio. Elles auraient progressé de 9,2% en à peine un an. Les crises tant sanitaires qu'économiques qu'a traversé l'agriculture ces dernières années ne seraient pas étrangères à cette modification des pratiques agricoles, qu'il faut là encore relativiser, car les fermes bio ne représentent que 8% de l'ensemble des exploitations agricole de l'Hexagone.
La situation du bio en France, infographie à consulter sur franceinter.fr. Les policiers dans la rue, un an après la grogne de l'automne 2016 et les promesses du gouvernement de l'époque, 3 associations de policiers dénoncent un manque évident de résultats, des locaux et du matériel qui continuent de se dégrader, des conditions de travail toujours aussi difficiles. Elles appellent à manifester tout à l'heure dans les plus grandes villes, Paris, Marseille, Lyon, Toulouse et autres. Pour ou contre les couvre-feux, tout au long de l'été, comme chaque année, de nombreuses villes ont pris des arrêtés pour limiter la circulation des mineurs pendant la nuit. Arrêtés qui pourraient être renouvelés pendant les vacances de Toussaint, dont certains d'ailleurs ont été prolongés jusqu'en octobre et même plus loin. Pour les élus locaux, c'est un moyen d'éviter les nuisances, un outil supplémentaire pour les policiers. Pour la Ligue des droits de l'homme qui multiplie les recours, c'est une atteinte aux libertés, on va y venir. D'abord, illustration à Mazamet, dans le Tarn, où les moins de 13 ans ont eu interdiction de se promener seul la nuit pendant tout l'été. 38 euros d'amende pour les parents dans le cas contraire. Alors la mesure a-t-elle été utile? C'est le droit de suite de ce journal, un reportage d'Alain Gastal.
Un arrêté qui, à Mazamet, semble plutôt faire l'unanimité. L'opposition au conseil municipal n'a pas voté contre. Et pour Gustave, qui habite au centre-ville, c'est une simple question de bon sens.
Moi, j'ai eu 13 ans. Le parrain nous disait, tu vas faire la vaisselle, tu vas faire ci, tu vas faire là. Quand je suis sorti, un peu sorti, on va dire, hein. J'avais 18 ans.
Vous avez déjà été ennuyé par des mineurs le soir qui sont...
Pour l'instant, je suis pas ennuyé.
Car Mazamet est une ville plutôt tranquille où les jeunes qui se retrouvent notamment autour du kebab ne se sentent pas vraiment stigmatisés non plus.
C'est une ville assez sympa, il y a des coins sympas. Il y a pas mal de choses à faire. Oui, oui, on peut s'amuser, ouais.
La police est sympa?
Je n'en parle pas, donc...
Oui, la police est sympa. Ils disaient rien de mal.
En fait, l'arrêté est limité, c'est obligatoire à quelques quartiers, à la période estivale. Ils visent autant à empêcher les incivilités que la divagation des jeunes mineurs tard le soir. Lionel Maouk, c'est le patron de la police municipale.
Il y avait des groupes de jeunes qui faisaient des tapages, ni plus ni moins. Et l'arsenal juridique ne nous permettait pas à l'époque d'intervenir. Et un mineur de moins de 13 ans, on ne va pas lui mettre les menottes, bien sûr. Mais ça permet aux forces de l'ordre de pouvoir raccompagner les mineurs de moins de 13 ans chez eux.
Cet été pourtant, l'arrêté n'a pas eu à être appliqué. Aucun mineur n'a été ramené chez lui. Signe pour le maire d'Hiver-Droite, Olivier Fabre, d'une prise de conscience des parents.
Il semblerait que ça ait peut-être sensibilisé certains parents, donc on va peut-être le reconduire, et peut-être même, pourquoi pas d'ailleurs, l'étendre. Alors il faut rester très prudent, puisqu'il y a un respect aussi des libertés publiques à avoir, mais peut-être l'étendre à des mineurs peut-être un peu plus âgés, passer la barre des 13 aux 15 ans, parce que on se rend compte aussi qu'il peut y avoir des problèmes avec des mineurs qui sont au-delà des 13 ans, en fait.
Mazamé, Alain Gastal, France Inter.
Invité de ce droit de suite, Michel Tubiana, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, bonjour. Alors, vous contestez systématiquement les couvre-feux pour les mineurs par principe?
Non, nous ne contestons pas systématiquement et par principe. Nous constatons simplement que, et les tribunaux administratifs nous donnent souvent raison, que ces arrêtés ne correspondent pas à des besoins et sont souvent extrêmement prolongés, étendus géographiquement et constituent en réalité une mise à l'écart des jeunes, parce que dans le cas que nous venons d'entendre, il s'agit de moins de 13 ans, mais souvent il s'agit tout simplement de moins de 15 ans, de moins de 16 ans, sur des quartiers entiers, sur parfois la moitié d'une ville, c'est-à-dire en réalité une mise à l'écart des jeunes, une interdiction de l'espace public aux jeunes.
Mais vous savez que la loi interdit aux moins de 18 ans, quoi qu'il en soit, de sortir sans l'autorisation des parents. C'est la loi.
Sans l'autorisation des parents, c'est une chose. Être dehors, c'en est une autre. Je veux dire que les arrêtés pour mineurs, les arrêtés sur le couvre-feu sur mineurs, ne concernent pas l'autorisation ou pas l'autorisation des parents. Ils interdisent aux enfants d'être dehors, et parfois même en engageant la responsabilité pénale des parents sous forme d'amende.
Mais justement, est-ce que ça ne permet pas une responsabilisation des parents et surtout une protection des adolescents?
Mais faut-il d'abord se poser la question de savoir est-ce que c'est utile, est-ce que c'est nécessaire? Dans la plupart des cas où nous avons gagné devant les tribunaux administratifs, et encore une fois ils sont nombreux, les tribunaux administratifs ont considéré qu'il n'y avait pas de risque pour les mineurs. Pourquoi voulez-vous faire de l'interdiction de l'espace public aux mineurs la règle?
Vous ne pensez pas que c'est un outil supplémentaire pour les policiers qui, sans ces arrêtés, ne peuvent rien faire devant un jeune qui serait dehors la nuit?
Mais est-ce que
un petit, hein, moins de 13 ans.
Est-ce que jeune dehors la nuit, en plein été, dans circonstances un peu estivales, etc., c'est forcément quelque chose de scandaleux?
Je ne sais pas, vous y voyez quoi, vous, de la démagogie?
J'y vois aussi simplement de la vie des jeunes. Encore une fois, entre la volonté de maintenir la paix publique, d'assurer la protection de mineurs qui peuvent être en difficulté, et l'interdiction généralisée de l'espace public, quasi généralisée de l'espace public à des jeunes, il y a de la marge. Et si nous gagnons, encore une fois, devant de nombreux tribunaux administratifs, c'est parce que cette marge est largement dépassée. D'une part, parce qu'il s'avère que les risques invoqués par la municipalité sont inexistants, et d'autre part, parce que l'arrêté est tellement étendu géographiquement et dans le temps que ceci paraît être une interdiction permanente.
Alors souvent, les élus font état de nuisances, de dégradations, en quelque sorte. Le couvre-feu permet de prévenir plutôt que de réprimer.
Le couvre-feu permet de prévenir lorsque les faits évoqués par les élus sont exacts. Je viens encore une fois d'évoquer les décisions des tribunaux administratifs qui, dans de nombreux cas, considèrent que les faits évoqués par les élus ne sont pas exacts.
Donc pour vous, c'est quoi alors? C'est de l'électoralisme?
Oh, c'est une forme de démagogie, d'électoralisme, et ça s'inscrit bien dans l'ère du temps sécuritaire. Mais surtout, c'est une mettre en situation de suspicion, et là aussi c'est un peu l'air du temps, toute une catégorie de la population, cette fois-ci à raison de son âge. Car ça ne vous a pas échappé, ces arrêtés pour mineurs frappent tous les mineurs. Et donc par conséquent, c'est tous les mineurs qui sont considérés comme des suspects.
Et pour vous, si la mesure est ponctuelle, limitée dans le temps, peut être acceptable?
Pour moi, si la mesure est ponctuelle, limitée dans le temps, et correspond à une nécessité de danger pour les mineurs à l'intérieur d'un périmètre donné, on peut en discuter. Mais encore une fois, dans de nombreux cas, ce n'est pas le cas.
Michel Tubiana, le président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. La mort de l'acteur américain Harry Dean Stanton, il avait été notamment l'interprète de Paris, Texas, de Wim Wenders, Palme d'Or à Cannes en 84, à l'affiche de quelques 70 films, le plus souvent dans des seconds rôles, comme dans Twin Peaks ou La dernière tentation du Christ. Harry Dean Stanton avait 91 ans. Allez, à 13h15, les prescriptions du service culture de France Inter, c'est avec vous Alexandra Akoun, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Et on commence avec la série américaine The Deuce.
Série qui a débuté lundi soir sur OCS, c'est en replay, profiter du week-end pour rattraper. C'est l'un des événements télé de cette rentrée, une plongée dans le New York poisseux des années 70. De Douce, c'est le raccourci de Forty Douce, surnom à l'époque du quartier qui englobait la 42e rue entre Broadway et la 8e avenue à Manhattan. Un univers de malfrats, de prostituées, de trafiquants de drogue. C'est là que la pornographie va commencer à sortir du placard pour prendre petit à petit des allures industrielle et faire sa révolution culturelle. C'est cette révolution que nous raconte De Douce à travers toute une galerie de personnages. Vincent, le petit barman de Brooklyn, interprété par James Franco, qui joue aussi son frère jumeau Frankie. Laurie, la gamine débarquée de sa province. Sissy, le Mac, aussi séducteur que dangereux. Mais celle qui crève l'écran, c'est l'actrice Maggie Gyllenhaal.
Nobody makes money off of my pussy but me. I don't need anybody else to hold my fucking money.
Elle interprète Candy, prostituée qui refuse d'avoir un souteneur.
Et le scénario lui est signé d'un des auteurs les plus doués de sa génération.
David Simon, à qui on doit déjà les excellentes séries de Wire et Tremé. Après la drogue à Baltimore et le jazz à la Nouvelle-Orléans, David Simon et son co-auteur George Pelecanos posent un regard d'anthropologue sur le porno, qui a le pouvoir, qui est l'exploité, la marchandisation des corps, la misogynie, des thèmes abordés avec un réalisme cru mais jamais vulgaire, et porté par une bande-son de haut niveau, De Douce, sur OCS, à voir absolument.
D'autres conseils, Alexandra, pour ce week-end?
Une expo photo pour prolonger l'expérience dans la grosse pomme. Jean-Pierre Lafont, un Français à New York, il y vit depuis 1965. Parcourir ses clichés, c'est feuilleter un livre d'histoire américaine, Andy Warhol, Martin Luther King, Mohamed Ali face à Joe Frazier. Jean-Pierre Lafont les a tous eus, les plus grands, dans son viseur. Vous connaissez forcément ces photos parues dans Paris Match Time Newsweek. Elles sont à découvrir à la Galerie de l'Instant, 46 rue de Poitou, dans le 3e à Paris, jusqu'au 29 novembre.
Et pour célébrer les journées du patrimoine jusqu'à demain soir, pourquoi ne pas venir nous voir, tiens?
Eh bien oui, Radio France ouvre ses portes depuis ce matin. Visite guidée de notre grande maison ronde, concert, atelier de cinéma sonore. À 16h aujourd'hui, par exemple, Yves, ce sera 20 milieux sous les mers, au studio 105, immersion dans le son en trois dimensions. Programme complet, réservation, attention, elles sont indispensables sur maisondelaradio.fr.
Et justement, merci Alexandra Akoun, ils ont été nombreux dès ce matin à venir nous voir. Comme chaque année, la Maison Ronde suscite beaucoup de curiosité, Ilan Malka.
Ces visites sont menées par des guides comme par exemple Clémence Coqui qui fait découvrir plusieurs studios de Radio France à un public souvent impressionné et surpris, par exemple chez nos confrères de France Info.
Donc vous avez ici le plateau, c'est là que sont les invités, c'est là que sont... Donc ceux qui présentent l'émission. Pour la petite anecdote, donc la chaîne publique d'information a été inaugurée en 2016 et une semaine avant, ce studio n'était pas encore terminé.
Quand c'est vu à la télé, ça paraît énorme.
En fait, pas tant que ça.
Non, pas tant que ça.
C'est l'occasion de voir où se fait la radio et d'apprendre également comment elle se fait.
En fait, on a une petite lumière rouge, je ne sais pas si vous la voyez là-bas. En fait, quand elle est allumée, ça veut dire qu'on est en direct. Quand elle est éteinte, on est hors antenne, donc les auditeurs n'entendent pas.
Ça passe du éteint à rouge ou ça clignote d'abord 2-3 secondes pour histoire de dire attention?
Alors non, en fait c'est là que le réalisateur est important aussi, c'est qu'il donne le top départ.
Et à la fin, lorsque l'on demande aux visiteurs ce qui les a le plus marqués, la réponse la plus fréquente est celle que donne Lionel.
Eh ben, c'est l'aspect coordination entre les personnes qui sont au micro, la technique,
même si on essaye de s'imaginer en tant qu'auditeur comment ça se passe, quand on le voit en vrai, ça met en jeu plein de choses différentes, plein d'acteurs différents, c'est impressionnant.
Il y a également une vraie simulation d'émission durant laquelle chacun peut s'exercer quelques minutes à devenir présentateur radio dans un vrai studio.
Voilà, petite lumière rouge allumée, on peut y aller. Réservation obligatoire sur maisondelaradio.fr. À propos de patrimoine, c'est Stéphane Bern qui va se mettre au chevet des chefs-d'œuvre en péril. Une mission bénévole que vient de lui confier le président de la République, à charge pour l'animateur de France 2 d'identifier les monuments à sauver et de chercher les moyens de financement. Avant la météo, dans un instant, deux mots de sport en rugby. Une victoire record des Blacks sur les Springboks, 57-0. Une véritable humiliation pour l'Afrique du Sud. Et puis dans moins d'une heure, le double de Coupe Davis, France-Serbie à Lille. Un partout après les deux premiers simples. La paire française Mahut-Herbert largement favorite, mais c'est ce qu'on disait aussi de Lucas Pouille qui a perdu son match. Alors prudence.
Merci à vous Yves Decamp. On vous retrouve ce soir pour le 19h, mais tout de suite les couleurs du temps. Jean-Michel Golinski de Météo France.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va ?
Des températures souvent en bas de l'échelle et un ciel menaçant sur les trois quarts du pays cet après-midi, alternant entre le bleu, le gris, l'averse et parfois l'orage, avec de la neige sur le massif alpin à partir de 1800 mètres. À signaler que le Languedoc, le Roussillon et la Provence seront épargnés par ce temps instable, mais pas la Corse, qui verra passer des nuages d'averse et d'orage. Les températures fraîches ne dépasseront pas 15 degrés en moyenne du nord de la Loire à la frontière allemande, 17 des rives de la Garonne à l'Auvergne et en Rhône-Alpes. Ce sera plus doux vers les bords de la Méditerranée avec 21 degrés à Perpignan, 22 à Marseille et 24 à Bastia. Demain, dans des températures partout stationnaires, le soleil va résister sur le bassin méditerranéen, mais avec beaucoup de vent. Au nord de la Loire, les averses matinales seront suivies d'un ciel un peu plus clément. Entre les deux, les pluies prévues par l'océan vont rendre le temps maussade en matinée au sud de la Loire, puis l'après-midi sur la Bourgogne, l'Auvergne, le Jura et les Alpes.